18h40 précisément sur France Culture Zoé 16.
Bonsoir Philippe Delmas.
Bonsoir.
Rebonsoir en réalité, on vous a déjà entendu. Alors on a le plaisir de vous recevoir parce que vous publiez ce mois-ci aux éditions Fayard ce livre qui a été très remarqué par vos homologues et aussi par des gens dont c'est le métier d'écrire des livres. Un pouvoir implacable et doux, la tech ou l'efficacité pour seule valeur. Alors ce que le sous-titre ne dit pas vraiment de ce livre, c'est que c'est effectivement une analyse des effets économiques de la tech sur notre société, mais aussi sur la manière dont elle transforme profondément notre rapport politique au monde et notamment à la démocratie. Alors, vous êtes ce que les Échos appellent dans un article sur le démantèlement des GAFA, un entrepreneur intellectuel, ça vous va ou pas ça?
Ça me va assez bien.
Ça vous va assez bien puisque vous êtes énarque, vous êtes passé par le Quai d'Orsay brièvement, puis vous dirigez Astrium puis Airbus et aujourd'hui vous dirigez une société de conseil en stratégie industrielle. Alors, le point de départ de ce livre, semble-t-il, c'est une espèce de comparaison entre cette révolution de la tech, même si on va en parler, certains contestent l'existence d'une révolution de la tech en soi, une comparaison avec la révolution industrielle, c'était quoi le projet de ce livre? Quelle était l'intuition qui peut-être vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure-là?
En fait, c'est parti de deux choses. D'une part, les révélations d'Edward Snowden en 2013, qui m'ont quand même amené à m'interroger sur la manière dont, sans nous en apercevoir au fond, les technologies qui nous entouraient pouvaient aussi nous surveiller. Et ce qui, dans l'ensemble, est assez peu représenté. Quand vous regardez le cinéma par rapport à la technologie, l'essentiel de la menace technologique, c'est Terminator. C'est des formes hominoïdes qui prennent le pouvoir à différents égards. Le seul qui a vu que c'était pas ça, c'est Kubrick. Dans 2001, l'œil de...
Ces dernières années, ça a rattrapé sur les imaginaires.
L'ordinateur de Kubrick, c'est juste un œil. Et je trouve ça extraordinaire. Ça, c'était la première chose. Puis la deuxième chose, en fait, ça a été la lecture d'un travail absolument remarquable d'une femme qui est psychologue et qui a créé un département au MIT pour suivre les effets de la technologie sur les gens. Et la chose qui m'a beaucoup frappé dans cette affaire, c'est qu'elle raconte que la technologie, que ce soit les personnes âgées ou les adolescents, isolent les gens. Et ça m'a énormément frappé, parce que je me suis dit, c'est marrant quand même, la révolution industrielle, finalement, ça a été un moment où on a rassemblé les gens, on a inventé la solidarité, la représentation syndicale, la représentation parlementaire, et aujourd'hui, la technologie fait l'inverse. Et je suis parti de ça, et là, mon cheminement est allé de surprise en surprise, parce que ce que j'ai découvert, c'est que, en fait, l'économie de la tech, c'est-à-dire de l'ensemble de ce que l'électronique produit depuis 50 ans, on a maintenant un demi-siècle de recul, donc ça commence à compter, n'a plus rien à voir du tout, à aucun égard avec ce qu'était l'économie de la révolution industrielle, d'une part, et que d'autre part, ce que cette économie produit impacte de la même façon toutes les échelles des sociétés, les individus, les entreprises, les villes, les régions, les pays, et quel que soit leur niveau de développement.
La granularité, c'est ça.
La granularité.
Mais ça, c'est un point commun entre ces deux révolutions, vous le dites. Alors, effectivement, ces travaux dont vous parlez sur ces travaux du MIT, notamment en psychologie, sur l'isolement, c'est des travaux qui sont repris par Bruno Patino dans son dernier livre, La civilisation du poison rouge, qui sont aussi cités par Tristan Harris, un ancien de Facebook, qui entre-temps a viré sa cutie. Là, ce qui me paraît intéressant dans ce livre, c'est que c'est une enquête aussi économique sur notamment, c'est le lien entre la manière dont cette révolution bouleverse économiquement notre monde et ses enjeux politiques. Alors vous dites que c'est la stratégie du winner takes it all, c'est-à-dire que les leaders deviennent des leaders. C'est pas la stratégie, pardon. Ce sont les effets.
C'est littéralement une loi de la physique de la tech. La vraie différence entre l'économie de la révolution industrielle et l'économie de la révolution numérique, et on a maintenant 50 ans de recul pour appuyer cette affirmation, c'est que l'économie de la révolution industrielle, vous produisez bien sûr des gagnants et des grands, et puis des gens qui suivaient peu à peu, et puis des gens moyens, etc., etc. Et politiquement, ça a produit dans toutes nos sociétés occidentales le cœur de nos sociétés, qui est la classe moyenne, des revenus moyens, des éducations moyennes, des villes moyennes, etc., etc. L'économie de la révolution numérique, c'est extrêmement simple, ça produit des gagnants ou des perdants, rien d'autre. Il n'y a plus rien de moyen. Les villes moyennes déclinent, les études moyennes ne mènent nulle part, les jobs moyens disparaissent, les pays moyens deviennent pauvres.
Les pays pauvres ont moins de chances et sortent moins rapidement de la pauvreté qu'auparavant.
C'est pas moins de chances, c'est que quand vous regardez 30 ans d'économie, de macroéconomie de la tech, l'effet, et c'est un chapitre pour moi l'un des plus importants
probablement
du bouquin,
le plus important du livre, ouais.
C'est que l'effet de la révolution numérique, c'est que en 30 ans, les chances d'un pays pauvre de devenir un pays moyen ont été réduites de moitié, les chances d'un pays moyen de devenir un pays riche ont été réduites de moitié, et les chances d'un pays moyen de redevenir un pays pauvre ont doublé. Et ceci est entièrement dû à l'économie de la tech. Pourquoi ? De façon très simple, parce que la diffusion des technologies depuis les pays les plus avancés vers les pays les plus pauvres, c'est deux choses. C'est d'abord, il faut que les technologies arrivent, et ensuite, une fois qu'elles sont arrivées, il faut qu'elles se diffusent. On a gagné beaucoup en vitesse de transmission. À l'époque de la révolution industrielle, il fallait un siècle pour qu'un truc inventé en Angleterre arrive en Inde. Aujourd'hui, il faut 10 ans.
Des bateaux à vapeur, où il y a quasiment 100 ans.
Le délai de transfert de la technologie des bateaux à vapeur depuis l'Europe jusqu'à l'Asie, c'est entre 70 et 140 ans. Le délai de transfert des technologies comme l'ordinateur individuel ou Internet, c'est entre 7 et 10 ans. Vous dites formidable.
Mais
ça va quand même. L'obstacle principal au rattrapage va tomber. Yes, pas de chance. Les technologies de la révolution numérique sont des technologies cumulatives. Elles ne sont efficaces qu'à deux conditions. La première, c'est que vous les intégrez complètement, vous réorganisez en fonctionnel. Et la seconde, c'est que vous les répandez partout. Et c'est ceci qui ne se produit pas. Autrement dit, aujourd'hui, lorsqu'un pays a fini sa vague d'investissement, par exemple dans l'informatique ou les réseaux de télécom, il est moins bien équipé en informatique ou en réseau de télécom qu'il y a 100 ans, il ne l'était en bateau à vapeur. Et cette différence-là fait que, depuis le début des années 2000, la productivité, c'est-à-dire la capacité des pays à s'enrichir, des pays en voie de développement, y compris des pays émergents, recule par rapport aux économies les plus avancées.
Et vous dites aussi que dans ces pays où la tech a fait sa révolution, la part du travail dans le PIB diminue et va avoir tendance à diminuer.
Elle ne va pas avoir tendance à diminuer. Elle diminue dans le monde entier. Et ça, c'est l'université. Une des choses extraordinaires de l'économie de la tech, c'est son universalité. Je vous le disais en commençant, mais j'y reviens. Ça marche partout, de la même façon, à toutes les échelles et quel que soit le niveau de développement. La part des salaires dans le PNB des pays baisse dans nos pays, comme dans les pays émergents, comme dans les pays en voie de développement. Et dans nos pays, aujourd'hui, elle est à son niveau le plus bas depuis 50 ans. Et ceci est un résultat mécanique, là encore, de l'efficacité extraordinaire de la tech qui divise le monde en deux. Vous avez les entreprises ou les économies qui utilisent efficacement la technologie, ils ont des gains de performance formidables. Ils peuvent augmenter les salaires, mais les gains de performance sont tellement grands que la richesse croît plus vite que les salaires, d'un côté. Et puis, les autres, tous les autres, il n'y a plus de moyens, tous les autres, eh ben, n'ont plus les moyens parce que eux ne sont pas efficaces, parce qu'ils n'utilisent pas bien la tech, ou parce qu'ils n'en ont pas assez. Et du coup, ils n'ont pas les capacités d'augmenter les salaires. Et donc, qu'il s'agisse d'entreprises ou de pays, la part des salaires dans la richesse créée diminue.
Et alors, vous le dites, ça a des conséquences claires sur notre rapport aux politiques et notamment sur la démocratie. Alors, effectivement, vous rappelez ce que tout le monde a vu, c'est-à-dire que la tech n'est pas un projet politique. On a tous eu les enthousiasmes du rôle joué par la tech dans les révolutions arabes. Mais vous allez bien plus loin que ça. Vous dites qu'en réalité, le socle économique de la démocratie, le contrat démocratique, est complètement mis à mal par cette révolution.
C'est ça le cœur du sujet. C'est que nos pays, nos démocraties sont fondées sur un pacte économique implicite, mais auquel on n'a à peu près jamais dérogé. D'ailleurs, quand on l'a fait, ça a mal tourné. C'est-à-dire que la richesse créée était distribuée, pas de façon égale, mais elle était distribuée. Premier critère. Et second critère, vous pouviez espérer mieux pour vous au fil de votre vie et pour vos enfants. Dans une économie dont la dynamique par nature est inégalitaire, comme la tech, ces deux clauses n'existent plus. La création de richesse est concentrée et elle s'accumule chez ceux auxquels elle bénéficie. Alors, vous constatez ça de façon très simple, c'est que les inégalités s'accroissent et que par ailleurs, et c'est une transformation radicale pour nos pays, c'est que depuis 2005, les deux tiers des salariés, dans les 25 pays les plus riches du monde, pour les deux tiers des salariés, les revenus du travail n'augmentent plus. Ceci n'est jamais arrivé. La dernière fois que c'est arrivé dans nos pays, c'était il y a 80 ans. Dans ces conditions-là, le pacte économique, alors le Wall Street Journal...
Alors en quoi est-ce que ce serait le fait précisément d'être
très socialiste, un jour, faisait une enquête là-dessus, il disait, les citoyens de nos pays peuvent quand même se poser la question de savoir s'ils sont pas des pigeons.
Oui, mais en quoi est-ce que c'est le fait précisément de la révolution de la tech? C'est là où vous êtes, où il y a d'autres facteurs qui entrent en compte.
Il n'y a pas fondamentalement. Alors, ce qui est impressionnant, c'est quand vous regardez effectivement la dynamique économique qu'il y a derrière, vous trouvez la tech et presque exclusivement la tech. Vous avez un corpus absolument énorme d'études à ce sujet. C'est marrant, c'est exactement comme le changement climatique. On a des milliers d'études toute convergente qui explique le changement climatique et nos dirigeants ont encore du mal à y croire dans bien des pays. Ou en tout cas prendre les mesures appropriées. Là, c'est exactement pareil. Vous avez un gigantesque corpus d'études qui vous montre que la dynamique des inégalités, la dynamique du plafonnement des salaires, la dynamique du creusement d'écart d'efficacité, donc de modernisation entre les pays en voie de développement et les pays modernes, est entièrement, je veux dire, au-dessus de 80% lié à la tech. Vous avez des études d'université, des études de banque, des études d'organisation internationale du travail, du FMI, de la Banque Centrale Européenne, des banques fédérales américaines. Le corpus est écrasant, absolument écrasant, et c'est la tech partout. Alors vous avez quelques facteurs qui jouent, par exemple dans nos pays, la concurrence des pays à bas coût joue, mais marginalement.
Qui jouera plus longtemps d'ailleurs, et vous le dites dans ce livre. Autre conséquence pour vous, par ailleurs, l'efficacité et la rapidité de l'imprégnation de cette révolution technologique rend finalement la lenteur du temps politique insupportable.
Ah, vous avez complètement raison. Pour moi, c'est le sujet, alors cette fois-ci de vie politique, alors le sujet de fondement politique, c'est que le pacte économique est rompu. Le sujet de vie politique, il est que face à cette logique des vainqueurs, l'urgence pour chacun de nous, c'est d'en faire partie. Et donc, ce que nous attendons...
En fait, la Chine devient presque un étalon de...
Absolument. Mais de l'avis même de certains experts américains, c'est le cas. Donc, ce que nous attendons de l'État aujourd'hui, c'est pas des positions démocratiques ou n'importe quoi, c'est de l'efficacité. C'est la seule chose qui compte. Il y a une extraordinaire étude, c'est probablement l'étude la plus étonnante de ce bouquin, c'est une étude de la Banque mondiale qui, dans 100 pays, donc vous voyez la diversité, qui demande aux citoyens qu'est-ce qui compte le plus dans leur appréciation de l'État. Et à la stupéfaction de la Banque mondiale, les gens répondent que c'est l'efficacité de l'État qui compte et pas la démocratie. Ils ont été tellement étonnés par le résultat qu'ils ont demandé ils ont séparé les pays qui avaient répondu en deux groupes, ceux pour qui la démocratie primait et qui étaient seulement ceux où les gens étaient satisfaits de l'efficacité de l'État. Dans tous les autres pays, dans tous les pays et qui sont l'écrasante majorité, où les citoyens pensent que l'État fait pas bien son boulot, les citoyens considèrent non seulement que la démocratie est secondaire, mais qu'elle est une entrave au développement de l'efficacité. Et donc aujourd'hui, et on le voit dans nos pays, l'attente fondamentale des citoyens, c'est plus du positionnement politique, c'est l'efficacité de l'État. Est-ce que l'État m'aide et aide mes enfants à faire partie des vainqueurs? C'est la seule question qui compte.
Et pour conclure, vous concluez d'ailleurs avec une coda plus qu'avec une conclusion. Vous concluez en parlant de l'impératif humain. C'est un constat relativement sévère et assez noir que vous dressez là. Quelles sont vos précanisations? C'est-à-dire, quels sont les quelques leviers qui existent, selon vous, pour qu'on puisse, disons, dérouter une certaine partie des prédictions?
Mais il n'y a pas de... Alors, trois choses là-dessus. Premièrement, la tech, ça marche. La tech nous rend des services extraordinaires tous les jours, et encore plus peut-être dans les pays en voie de développement, notamment les plus pauvres. Donc la question n'est pas que la tech est un méchant démon. La question, c'est que la tech est un outil, et comme on n'a pas compris la nature de cet outil, on a du mal à le contrôler. Donc c'est nos sociétés, nos dirigeants, qui doivent mettre la chose sous contrôle. Deuxièmement, il y a un certain nombre de mesures, j'en détaille plusieurs dans le livre, concernant aussi bien nos sociétés que nos économies à prendre, pour que la tech redevienne un instrument de création de richesses et de liens sociaux, plutôt que le contraire. Troisième chose, qui a particulièrement sa place ici, c'est la place particulière que je vois à l'Europe dans ce domaine. Ça, pour moi, c'est vraiment fondamental. L'Europe est la première partie du monde où les grandes entreprises de la tech ont été mises à l'amende pour comportement concurrentiel. L'Europe est la première partie du monde où des pays, je pense notamment à l'Allemagne et l'Autriche, sont en train de réviser leur droit de la concurrence pour tenir compte du comportement de ces boîtes. Et enfin, l'Europe est la seule partie du monde, on l'a vu au moment des révélations de Snowden, on le voit aujourd'hui, qui s'intéresse à la vie privée des gens. Et ceci, au-delà des aspects souverains, pour moi, ça a quelque chose d'essentiel qui est la toute fin du bouquin, mais qui est magnifique, c'est que le propre de l'Europe, ce qui nous fonde, ce qui nous rend différents du reste du monde, c'est notre souci de la diversité. C'est la diversité qui nous a créés depuis 25 siècles.
Merci beaucoup Philippe Delmas. Donc je rappelle le titre de ce livre, Un pouvoir implacable et doux. D'ailleurs on se demande souvent où est la douceur. La tech ou l'efficacité pour seule valeur, c'était paru aux éditions Fayard en ce début de mois d'octobre.